Vous écoutez RTL.
Il est 9h01.
RTL Matin.
Laissez-vous tenter.
Avec Yves Calvi.
Dans un instant, une rencontre exceptionnelle avec les frères de Michael Jackson. Ils racontent leur épopée musicale et leur saga familiale dans un livre qui vient de paraître et que nous vous offrirons au 3210. Stephen Bellery a recueilli leurs confidences. Une année dans la création de Pablo Picasso, c'est le thème de l'exposition événement Picasso 1932, année érotique, qui ouvre demain au Musée National Picasso à Paris. À suivre notre visite guidée avec Monique Younes, qui était déjà avec nous pendant toute cette matinale. Et puis à la télévision ce soir, un polar en deux parties avec Laetitia Milo et Marianne Chazelle sur TF1 à 21h et à la même heure sur M6, l'émission d'aventure à l'état sauvage de Mike Horn avec Scheim. Ce sont les choix d'Isabelle Morini-Boss.
RTL Matin,
laissez-vous tenter.
Nous allons feuilleter le grand livre d'une saga familiale à présent et au sens propre. La famille Jackson se raconte dans un livre qui sort aujourd'hui. Son nom, Les Jackson, notre histoire. Ça paraît aux éditions EPA. Stephen Bellery, bonjour.
Bonjour à tous.
Vous avez rencontré trois membres de cette incroyable famille.
Hi, I'm Marlon Jackson.
I'm Tito Jackson.
And I'm Jackie Jackson.
And you're hanging out with the Jacksons on RTL.
Le petit cadeau, une demi-heure avec Jackie, Tito et Marlon Jackson, l'occasion d'évoquer avec eux ce beau livre de 300 pages composé de documents inédits ou rares et parsemé de souvenirs et de longues pages de confidences. Un ouvrage qui paraît 50 ans après leur début. Les Jackson 5 avaient sorti leur premier disque en janvier 1968, Jackie Jackson.
50 ans, c'est passé tellement vite. On a rencontré tellement de monde en 50 ans. On s'est fait des amis, on a voyagé partout. On s'est surtout amusé à faire de la musique. On avait gardé tellement de choses, des archives, des photos. C'était entassé dans un hangar. On a voulu le partager avec nos fans.
Premier disque des Jackson 5, Michael Jackson n'a que 10 ans. Tout commence.
C'est la petite voix qu'on vient d'entendre.
Et ouais. Tout commence dans la toute petite ville de Gary, dans l'Indiana, tout près de Chicago, au 2300 Jackson Street. Ça ne s'invente pas. Tito Jackson.
À vrai dire, c'était une toute petite maison. Et pourtant, on était 6 garçons et 3 filles. Et il y avait beaucoup d'amour dans cette maison. Je me souviens de parties de cache-cache, beaucoup de baseball aussi. Enfin, des trucs comme ça, quoi.
Le père, Joe Jackson, ne gagne que $56 par semaine. Alors, quand la télé tombe en panne, impossible de la remplacer. C'est comme ça que les Jackson développent une petite habitude le soir après le dîner. Tito Jackson.
Maman était chanteuse. Elle adorait la country. Et on s'amusait à faire les harmonies quand elle faisait la vaisselle. Les Three Stooges, un trio comique. On était très fans d'eux. Puis papa jouait de la guitare. L'instrument me fascinait. Alors j'ai commencé à jouer dans son dos. J'ai récupéré la guitare qui avait une corde cassée et mon père l'a découvert. Alors il m'a demandé de lui montrer ce que je savais faire. Il a été surpris de voir que je jouais presque aussi bien que lui. Il m'a donné la guitare, on essayait de refaire les chansons qui passaient à la radio avec Jackie et German. Les trucs de la Motown, les Isley Brothers. Et Michael est arrivé dans le groupe plus tard, quand on a commencé à l'entendre chanter. Mon père partait au boulot, il nous disait « soyez sages » et nous, on rêvait déjà d'un groupe. Maman a dit à papa, je crois un jour, tu devrais les écouter, je crois qu'ils ont ce qu'on appelle du talent.
Et Jackie poursuit, Michael avait déjà quelque chose de spécial.
Michael était obsédé par James Brown et Jackie Wilson. Il avait un don, il était rapide, il apprenait tout, il bougeait. Avec une agilité folle. On s'est dit, mettons-le à côté de Marlon. On formait vraiment un groupe.
Alors, ils racontent leur début, les Jackson, Stephen ?
Évidemment, ils ne cachent pas, hein, d'ailleurs, leur relation compliquée avec leur père, hein, Joe Jackson, qui les réveille en pleine nuit pour refaire une tâche s'il estimait qu'elle avait été mal faite pendant la journée. Et de leur début, ils disent tout, de leur tout premier concert dans un centre commercial jusqu'à un concours de chant à l'Apollo Theater à Harlem, à New York, qu'ils remportent. Et cette première partie de Bobby Taylor and the Vancouvers en juillet 1968 à Chicago, qui va changer leur destin. Taylor est subjugué, il appelle son patron, Berry Gordy, et leur décroche une audition à la fameuse Motown. Le contrat est signé le 11 mars 1969. Et pendant plus de 6 mois, la maison de disques va alors former, éduquer les Jackson 5. Écoutez Jackie, puis Tito.
La Motown, c'était comme une famille. On croisait les Temptations, Four Tops, les Supremes. On se partageait les studios. On traînait ensemble, on s'entraidait tous. On a tellement appris d'eux. La production, comme écrire une chanson, enregistrer avec une console, c'était comme aller à l'école.
L'université Motown, ils avaient un tel son, tout le monde l'a copié. Les cinq frères déménagent à Los Angeles chez Diana Ross. Leur succès est immédiat. Jackie Jackson se souvient de la folie de l'époque.
On a fait de la musique parce qu'on aimait ça. On prenait vraiment notre pied sur une scène. Et on n'a pas du tout réalisé que notre musique atteignait les quatre coins du globe. On n'a rien compris. Il faut dire qu'on travaillait tellement, tous les jours. Vraiment. On a même enregistré un album de Noël en plein été. Oh mon Dieu, on n'avait jamais de pause. On voyait notre manager partir en vacances et nous, on restait bosser tout le temps. C'était du travail, mais aussi du plaisir, car c'était vraiment ce qu'on désirait. Et pour avoir du succès, il faut travailler dur. Le truc, c'est qu'on était très jeunes et on voulait devenir des stars. On rêvait d'être James Brown ou les Temptations. On voulait divertir, on l'aurait même fait gratuitement. Il y avait ce truc de fou sur scène, même quand on était gamin, cette magie, on savait anticiper les gestes des autres, on se serrait les coudes, il y avait une alchimie folle, une camaraderie, on prenait soin les uns des autres et il n'y avait même pas de leader.
Les Jackson sortent un dernier album en 1989 et ils se retrouvent en fait en 2009 dans un studio, Steven.
Ouais, quelques semaines après la mort de Michael Jackson, pour poser leur voix sur le titre « This Is It », Jackie et Marlon Jackson.
Pour moi, ça m'a permis de chanter une dernière fois avec mon frère.
C'était une chanson que Michael et Paul Anka avaient écrite ensemble et qui n'avait pas été terminée. Ça a été tellement émouvant d'enregistrer la chanson après sa mort. On devait le faire. Perdre quelqu'un de proche, tu apprends à vivre avec, mais tu ne t'en remets jamais et c'est tout le temps avec toi.
Les Jackson, notre histoire, le livre vient de sortir aux éditions EPA. Il coûte 35 euros. Les frères Jackson préparent un nouvel album et une nouvelle tournée, m'ont-ils dit.
Et ce matin, nous vous faisons gagner ce beau livre. Pour cela, il faut répondre au 3210 à la question que vous pose Steven.
En quelle année les Jackson 5 ont-ils sorti leur premier disque ? Est-ce que c'était en 1968 ou en 1978 ? Ouf.
Réponse au 3210, je vous le rappelle. Merci beaucoup, Steve. Ben oui, Stephen Bellery. On passe à nos audiences du week-end avec Médiamétrie, Isabelle Mouboz.
Elles sont logiques. Vendredi, victoire de Koh-Lanta en hausse. L'émission repasse la barre des 5 millions de fidèles devant Les Petits Meurtres, dont la rediffusion du jour attire près de 4 millions de fidèles.
Pas mal, hein.
Samedi, TF1 d'abord, TF1 d'accord, TF1 encore. Mais c'est logique puisque c'est du foot. 7 400 000 personnes ont suivi le match Bulgarie-France. 32% du public, mais plus d'un homme sur deux. Devant Magellan sur la 3. Quant à hier, c'est toujours TF1 qui est en tête avec American Sniper, 5 200 000 personnes devant Mont Murdoch sur la 3. C'est-à-dire que 12e Slave sur la 2 est 3e. Et on note quand même plus d'un million de téléspectateurs devant le documentaire de l'enquête de France 5 sur les croquettes pour nos animaux de compagnie.
Les croquettes ?
Oui.
Les petits minous ?
Les chiens, et les chats, et les hamsters, et tout ce que vous
voulez. Énorme carton pour Blade Runner sur Arte.
Près de 2 millions.
Dingue.
Oui, mais les croquettes, c'est encore plus spectaculaire.
Bon, chacun choisit son camp.
2 millions
sur Arte. On peut même manger des croquettes en regardant Blade Runner. Dans quelques instants, on va surtout visiter une passionnante exposition avec Monique Younes.
Et le président de la République.
Vous êtes toujours...
Au taquet.
Au taquet, vous êtes incroyable.
RTL Matin.
Laissez-vous tenter.
Avec Yves Calvi.
9h13, bonne journée à vous tous qui nous écoutez. Monique Younes,
oui.
Bonjour.
Bonjour.
Vous étiez donc hier soir avec le président de la République au musée Picasso. Nous avons écouté et suivi pendant d'ailleurs toute la matinale. Alors tout cela pour visiter l'exposition Picasso 1932, année érotique.
Oui, et qu'on se rassure, le président n'est pas venu seul, il était avec Brigitte. Et il a impressionné son monde par sa culture et son à-propos. J'ai pu l'éloigner quelques instants de la foule et d'une grande partie de la famille Picasso, les enfants et les petits-enfants des différentes femmes du maître qui était venu l'accueillir. Loin du tumulte, je lui ai demandé « Mais depuis quand il aimait Picasso ?»
Je l'ai découvert au musée Puvis de Chavannes d'Amiens. J'avais 12 ou 13 ans quand il y a eu l'exposition de la Dacian Jacqueline Picasso. C'était un événement, ça m'avait ému, frappé. Il y avait d'ailleurs quelques portraits de Jacqueline au bras croisé, quelques portraits de Pablo jouant. C'était très fort, oui, pour moi. J'en garde encore un souvenir vivant, mais après, je ne prétendrai pas l'avoir compris. Je ne suis pas sûr de l'avoir compris, même aujourd'hui, parce qu'il y a quelque chose d'inépuisable. Quand on s'interrogeait là devant le tableau, on ne sait pas si c'est le sauvetage, si c'est une descente de la croix, si c'est... On peut toujours avoir plusieurs lectures comme il en avait, je pense, lui-même. Il n'est pas enfermable.
Alors, que voit-on dans cette exposition au musée Picasso après avoir écouté le président de la République ?
Toute la production de Picasso pendant l'année 1932. C'est une année très importante. Picasso a 51 ans, sa notoriété est déjà fabuleuse, ses tableaux atteignent des records, 56 000 francs. À l'époque, c'est énorme en 1932. Picasso entre dans le dictionnaire, il prépare sa première grande rétrospective et surtout, il est fou d'amour de la jeune Marie-Thérèse Walter qu'il va peindre jusqu'à plus soif. Petit problème, Picasso est marié avec la danseuse russe Olga Koklova, avec qui il a un fils Polo, double vie scandaleuse, ai-je fait remarquer au président.
Oui, alors après, le cheminement avec la famille que nous avons eu laisse comprendre que les autres peuvent vivre cette vie de manière plus compliquée. Et donc, ce qu'on voit avec le recul ou à travers ces tableaux n'était pas sans une forme de violence pour chacune et chacun. Mais sa boulimie allait en effet jusqu'à avoir 3 à 4 vies en même temps. Mais... Moi, je trouve que surtout chez lui, il y a à la fois la conscience d'un siècle et quelque chose d'intemporel chez lui. C'est ce qui rend ce peintre extraordinairement fort, y compris pour les plus jeunes générations, parce que c'est quelqu'un qui fait entrer dans la peinture du XXe siècle.
Et cette année 1932 illustre bien la créativité et l'hyperactivité de Picasso. Il arrive à peindre 2, voire 3 tableaux par jour, et tellement différents les uns des autres. Des nus, des natures mortes, des paysages, à travers tous les styles. Et c'est toujours Picasso, unique, qui déclenche l'enthousiasme, notamment celui du président.
Vous avez vu le début d'année qui commence avec de toiles formidables, cette toile un peu méditerranéenne de sculpture, et puis le premier portrait de Marie-Thérèse, il y a une intensité extrême. C'est formidable de suivre comme ça, jour par jour, à la fois les lieux, les obsessions. Il y a à la fois cette extraordinaire sensualité que le titre même de l'exposition rappelle, l'année érotique. Je pense que c'était un claustrophobe complet, et donc il ne s'est jamais enfermé dans un courant. Et c'est d'ailleurs ce moment charnière, là, début des années 30, où... Il est presque inqualifiable. C'est extraordinairement enthousiasmant parce qu'on sent que cette œuvre est habitée.
Alors on ne sait pas comment le dire, mais rares sont les peintres qui se sont renouvelés autant que Pablo Picasso.
Exactement, et vous vous arrêterez dans l'exposition devant le tableau intitulé Le Rêve, vendu en 2013 à 155 millions de dollars à un collectionneur américain. Le tableau revient en France pour la première fois depuis 50 ans, m'a dit la commissaire de l'exposition, Laurence Madeline.
Le profil de la femme devient un pénis, mais vraiment extrêmement naturaliste. Et là on voit quand même le culot de Picasso, qui en 32 expose un tableau comme celui-ci, à une femme dont la moitié de la tête est manifestement un phallus. Et tout ça est pris dans un élan de tendresse et d'abandon, avec des couleurs très franches, très crues, qui s'adoucissent à certains moments. Ce rêve, c'est sidérant.
Ainsi va cette année érotique picassienne. Voilà, les portraits de Marie-Thérèse représentent 80% de la production du peintre en 1932. Et lorsque Kahnweiler, un des marchands de Picasso, lui rend visite et découvre son travail, il écrit à son ami Michel Léris :
Je suis sorti écrasé de son atelier. Picasso est comme un satyre en train de violer une femme.
Et il n'a pas tort, parce que Picasso se dessine lui-même dans un carnet, peignant avec son pénis. 1932, année érotique, nous fait découvrir la peinture de Picasso dans cette année charnière. lumière, mais aussi son intimité, grâce à des archives, des photos de famille, des lettres, notamment la lettre de sa première amoureuse, Fernande, qui reproche à son ancien amant de l'avoir abandonnée alors qu'il s'était aimé dans la misère. Et elle le traite de tous les noms et lui souhaite de souffrir tous les maux de la terre. Si Picasso n'est plus un peintre maudit depuis longtemps, sa vie est encore objet de scandale. Ça n'empêche pas le président de réfléchir à avoir un Picasso à l'Élysée. C'est un projet, m'a-t-il dit.
Merci beaucoup,
Monique. Mais il a piqué la vedette de la commissaire, notre président, il est excellent. Oui.
Ben, quand même, quand on a le président, la commissaire nous excusera, mais elle a été merveilleuse hier soir.
Monique Younès est très sensible aux marques de pouvoir. Enfin, nous en parlerons une autre fois. Allez, à tout de suite.
Vous savez de quoi il parle.
Oui, je pense.
Très bien.
La télévision est à suivre avec Isabelle Morini-Bosque et son camarade Mike Horn. Vous savez, le gars qui grimpe partout.
Ah là là, moi c'est à ça que je suis sensible.
RTL Matin.
Laissez-vous tenter.
Yves Calvi jusqu'à 9h30.
Alors, on parle télévision, Isabelle Morini-Bosque. Diffusion donc ce soir du téléfilm « Quand je serai grande, je te tuerai », c'est sur TF1.
Et c'est surtout avec Laetitia Milo, adorée par le public depuis son apparition dans « Plus belle la vie » en 2004, son personnage de Mélanie, revenant d'ailleurs en novembre dans le feuilleton de la 3. C'est l'une des rares comédiennes populaires qui attire le public sur son seul nom, le polar La Vengeance aux yeux clairs ayant tellement plu en 2016 que la suite vient d'être tournée. Ce soir, il faut le dire, elle est surprenante dans le rôle de Jeanne, une jeune femme fragile qui veut poursuivre l'homme ayant tué sa mère quand elle avait 5 ans. Elle est sûre de l'avoir retrouvée en croisant un grand ponte, un médecin, Antoine Duléry. J'ai demandé à Laetitia Milo quel effet ça lui faisait d'être au choix le trèfle à quatre feuilles, la pâte de lapin ou la poule aux yeux d'or de TF1.
Ah, alors j'aime pas qu'on dise ce genre de phrase parce que déjà j'ai l'impression que ça va porter la poisse. Deuxièmement, pour moi, que ce soit sur TF1 ou France 3 ou d'autres chaînes, je m'épanouis et je dis oui aux projets qui me séduisent. J'ai envie d'être amoureuse des personnages que je joue, notamment là. C'est une jeune fille qui a été témoin quand même d'un drame à l'âge de 5 ans. À plusieurs reprises, elle accuse des innocents. Ouais, c'est lui le meurtrier de ma mère. L'enquête est réouverte à chaque fois. 30 ans, elle est enceinte. Tout va bien dans sa vie et elle tombe sur Antoine Duléry qui joue Alexandre. Et en fait, là, on ne la croit plus. Malgré tout, Alice, jouée par Marie-Anne Chazelle, réouvre l'enquête. J'axe vraiment ce film sur la fragilité de Jeanne. C'est une fille qui travaille dans l'ostréiculture. J'ai voulu la rendre la plus simple, la plus nature possible. Donc sans maquillage, sans coiffure, qu'on s'identifie à ce personnage facilement. Mais voilà.
Oui, elle a voulu prendre du poids. Alors, la flic, c'est Marie-Anne Chazelle, le mari Nicolas Gobbe, tous deux épatants.
Je vais mener conjointement l'interrogatoire du docteur Chevin avec le lieutenant qui a recueilli votre déposition. C'est une femme qui mène l'enquête et qui va être la seule à croire le discours de Jeanne. Est-il vrai que tu as cessé de prendre tes antidépresseurs ?
Voilà, la suite ce soir sur TF1, c'est en deux parties. Honnêtement, dans le genre, c'est réussi.
Alors, vous nous conseillez également sur M6, À l'état sauvage avec Chaim.
Bah, vous le savez, c'est un de mes programmes préférés. On connaît le principe. L'aventurier de l'extrême Mike Horn amène une vedette au bout du monde et d'elle-même, chaque personnalité embarquée ne pouvant pas frimer. Or donc, après Michael Youn, Matt Pokora, Laure Manoudou, Christophe de Chavannes, voici la chanteuse Chaim qui, en fait, chantait, a souvent déchanté, puisqu'il l'a amenée sur le toit du monde, entre Népal et Tibet. Et là, contrairement à Danse avec les stars, le moindre faux pas, parce qu'elle était dans Danse avec les stars. Le moindre faux pas pouvait être fatal. Alors Chaim, comme dirait Christophe de Chavannes, quel homme ce Micorne ?
Monsieur Micorne ?
Monsieur Micorne ?
Je reviens entière, changée. 4 jours, c'est vrai que ça paraît court, mais c'est fou, c'est très très dur. J'ai jamais autant souffert de ma vie, physiquement. Le jour, la nuit, parce que j'ai pas dormi, parce qu'il faisait froid, parce que tout est brutal, sale, hostile. Le seul réconfort que j'avais, c'était Micorne. Vraiment, c'est grâce à lui que j'ai tenu, parce qu'il est tellement humain, il donne tellement de sa personne qu'on peut pas le décevoir. Moi, j'ai absolument pas pensé à mes proches. Je pense que ça allait m'affaiblir que de penser à eux. Je le faisais pour Micorne. Et on rentre, et en fait, on se rend encore plus compte de la folie dans laquelle on se trouvait. Incroyable. Alors, j'ai pleuré, évidemment. J'ai retenu parce qu'il y a la pudeur aussi qui fait que j'avais envie d'éviter cette étape, mais finalement elle est passée et puis il n'y en a pas eu qu'une quoi.
Combien de kilos perdus ?
5 je pense. Et j'avais envie surtout que lui vive une belle aventure. J'avais pas envie qu'il ait à me porter tout le temps.
C'est plus déplaisant que porter Chaim.
Enfin, je voulais absolument pas qu'il porte mon sac en plus, moi encore moins. Mais ça a été, oui, une aventure unique et une rencontre unique qu'on fait pas deux fois dans sa vie.
C'est pourtant pas bien épaisse notre Chaim.
Non, elle est pas bien épaisse voilà. Et elle est revenue encore moins épaisse. Donc, l'un des moments qu'on préfère, c'est celui où Mike Horn contrôle le sac de son invité. Vous savez, le moment où il vire tout.
J'ai rien emmené de dérisoire. J'avais emmené une brosse à dents et des...
Des préservatifs ?
Non. Non, pas ça. Parce que vraiment, c'est impossible. Il n'y a même pas l'envie, en fait. On a tellement faim, on a tellement froid, on est tellement sale, de toute façon, que c'est pas possible. Puis 4 jours, ça va, on peut s'en passer quand même. J'ai réussi à garder un paquet de chocolat. Vraiment, ça a été mon sauveur pendant 4 jours parce qu'on n'avait rien à manger. Il n'y avait pas de bêtes, il n'y avait pas d'insectes. Je ne vais pas tout vous raconter, mais on est tombé sur quelque chose qui nous a au moins permis de tenir. Mais ce paquet de chocolat, merveilleux. C'était un rocher tout fondu, mais ce rocher, c'était le meilleur de ma vie, quoi. Il y a des miettes qui tombaient par terre, je reprenais tout. Mais je reprenais tout, je laissais rien, alors que je suis psychorigide sur l'hygiène, la saleté et tout, mais là, je me suis pas reconnue, quoi.
Donc, 21h, M6. Moi, c'est vraiment un programme, contrairement à ce qu'on dit, authentique et pas scénarisé. C'est toujours l'accusation qu'on porte. Et dans ce cas-là, elle est vraiment erronée.
Merci beaucoup, Isabelle Morini-Bosque. Dans un instant, vous saurez si vous avez gagné le livre de la famille Jackson qui vous est proposé par Stephen Pedry.
RTL Matin. Laissez-vous tenter. Avec Yves Calvi.
C'est Big Boy, ça. Et alors, dites donc, en quelle année les Jackson 5 ont-ils sorti leur premier disque avec
en
Big Boy
dedans ? En janvier 1968.
Voilà, si vous
50
avez
ans.
50 Bientôt. Ans, vous avez gagné les Jackson, notre histoire, le livre qui vient de sortir aux éditions EPA. Merci beaucoup à toute l'équipe et bonjour à Julien Courbet.
Ce n'est pas Julien, c'est Jean-Pierre Foucault.
Ah bon ?
Nous jouons à Qui veut gagner des millions oui. avec Michel Simès ce matin. Bonjour Michel.
Bonjour Yves.
Non, c'est Jean-Pierre Foucault. Je sais que vous vous levez tôt, mais faites attention. Première question. Si on écoute trois titres d'affilée du nouvel album de Carla Bruni, on risque l'endormissement en volant. Vrai ou faux ?
C'est faux.
Excellente réponse. Un seul titre suffit. Deuxième question. Nicolas Sarkozy est pressenti pour remplacer Passepartout dans Fort Boyard. Vrai ou faux ?
C'est encore faux.
Excellente réponse. Les talonnettes sont interdites sur le fort, on le sait. Troisième question, attention, il y a un piège. Elisabeth Martichoux vient de Bruxelles.
C'est toujours faux.
Excellente réponse, c'est gagné, bravo. Voilà Yves, si vous voulez participer, demain, nouvelle session de Qui veut gagner des millions ?
Vous êtes toujours aussi drôle et aussi peu doué pour les imitations.
S'il vous plaît, hein, je paie un imitateur une fortune pour m'apprendre.
Oh,
mais
oui,
visiblement, ça ne suffit pas, je ne prends pas assez de cours. Je vais me plaindre à Cadomia. Allez, on y va.
Bonne émission.